Vous écoutez, on lit pour vous.
Une véritable inclusion numérique est nécessaire. Un texte d'Étienne Dutille paru le 28 avril 2024 dans le magazine Fugue. ILGA World présentait récemment Accessing Connection, une collection de données et de témoignages montrant comment les disparités dans l'accès au numérique affectent les personnes LGBTI à travers le monde et sont en soi une fracture numérique. La disparité dans l'accès à la technologie numérique, y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les téléphones intelligents et les tablettes, et à l'Internet, a un impact sur les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, LGBT+, de manière spécifique, considère l'organisation internationale ILGA World. Il est essentiel d'écouter leurs histoires pour construire une inclusion numérique significative pour tous. L'organisation internationale a lancé, le 20 février, Accessing Connection, une recherche pionnière sur l'interaction complexe entre les disparités dans l'accès au numérique et les expériences uniques des individus et des communautés d'orientation sexuelle, d'identité et d'expression de genre et de caractéristiques sexuelles diverses. Les chercheurs ont cartographié les complexités de la fracture numérique du point de vue du genre, de la race et du statut migratoire, des régions géographiques, des contextes urbains et ruraux, de l'indigénéité et du handicap, entre autres. Mais jusqu'à présent, il n'existait que peu ou pas d'études sur les obstacles qu'elles représentent pour les personnes LGBT+. Rédigé pour ILGA World par The Engine Room, une organisation à but non lucratif qui soutient la société civile dans son utilisation de la technologie, Accessing Connection comble cette lacune en s'appuyant sur des données et des témoignages de défenseurs des droits humains de toutes les régions du monde. Les personnes LGBT+ savent que l'espace en ligne a permis de créer une communauté, de lancer des mouvements et de fournir des outils pour se faire entendre, y compris dans des environnements très hostiles, déclare Daniel Paletta, responsable de la communication chez ILGA World et responsable de la rédaction du rapport. Cependant, ces possibilités ne sont pas accessibles à tous de la même manière. L'accès aux ressources numériques dépend de la capacité à surmonter des barrières basées sur des aspects croisés de leurs identités. Les histoires racontées dans ce rapport montrent que dans le monde entier, il n'existe pas de récit unique sur la façon dont les personnes LGBT+ accèdent à la connexion. Si le coût des données, la localisation et le fait de disposer d'appareils et d'infrastructures adaptées ont un impact sur la capacité de chacun à être en ligne, de nombreuses personnes LGBT+ sont confrontées au fardeau de la précarité économique en raison des difficultés à trouver un emploi, du harcèlement, de la stigmatisation sociétale et d'une législation hostile. Ces facteurs ont une incidence sur leur capacité à acheter des appareils et à s'offrir une couverture Internet adéquate. Souvent, les plateformes en ligne ne sont pas conçues pour tout le monde. Les personnes LGBT+ handicapées sont confrontées à des obstacles à l'accès en raison d'un manque de pratiques inclusives. La prédominance de quelques langues, dont l'anglais, par rapport à d'autres, ajoutée au filtrage actif des contenus LGBT+, fait en sorte qu'il est très difficile pour nos communautés d'utiliser pleinement les sites, d'accéder à l'information et de l'utiliser pour défendre leurs droits. Craignant pour leur sécurité, les personnes LGBT+ doivent négocier entre l'anonymat et la visibilité. Tout comme pour la violence en ligne, les victimes de harcèlement en ligne peuvent avoir du mal à trouver des protections juridiques, en particulier lorsque leur identité et leur expérience sont criminalisées ou carrément rejetées. Les politiques d'exclusion poussent les travailleurs du sexe LGBT+ hors ligne dans des situations de plus en plus dangereuses. La surveillance et les limitations à la liberté d'expression constituent des obstacles supplémentaires pour les défenseurs des droits humains et les organisations LGBT+, qui manquent souvent de ressources et de financements suffisants pour adopter des pratiques de sécurité numérique ou améliorer leur culture numérique. La connectivité en ligne a transformé notre travail en tant qu'organisation LGBT+ et notre présence en tant qu'individu, confirme Julia Hert, directrice exécutive des LGA World. Mais elle crée aussi un cercle vicieux. Les personnes les plus vulnérables et les plus démunies sur le plan économique sont aussi les plus difficiles à atteindre et à soutenir. Elles sont en même temps les plus touchées par les méfaits de la censure, du blocage et du harcèlement en ligne, ce qui les prive d'occasions cruciales de défendre leurs droits et de construire une communauté. Malgré les obstacles à l'inclusion numérique, les organisations LGBT+ de base continuent de mettre en œuvre des moyens ingénieux pour servir leur communauté, y compris les moins connectées d'entre elles. Les histoires que nous avons rassemblées dans ce rapport montrent notre incroyable résilience, ont déclaré Luz Helena Aranda et Tuisina Imania Brown, co-secrétaires générales d'ILGA World. Nous sommes en première ligne pour faire progresser l'inclusion numérique pour tous, que ce soit en promouvant l'accès rural aux services Internet et la formation à la sécurité numérique, en nous mobilisant pour lutter contre une législation hostile, en traduisant des documents relatifs aux questions LGBT+ dans les langues locales, ou en exploitant la sécurité relative des espaces en ligne pour mener à bien des travaux ou rassembler la communauté. Nous savons qu'être en ligne n'est pas la seule façon de servir nos populations, conclut Aranda et Brown. Et pourtant, garantir une connectivité significative et sûre pourrait ouvrir de nouvelles perspectives, en particulier pour ceux dont la fracture numérique contribue à faire taire la voix. Tendre la main à ceux qui sont systématiquement marginalisés, par la fracture numérique ou autrement, reste au cœur de la promesse de ne laisser personne de côté. Info ilga.org. C'était Une véritable inclusion numérique est nécessaire. Un texte d'Étienne Dutille paru le 28 avril 2024 dans le magazine Fugue.
Des cocktails pour réguler son cortisol? Un texte de Catherine Hanfield paru le 19 juin 2024 dans La Presse. Question de Catherine Labonté, une lectrice. On voit beaucoup de gens parler de boissons pour contrôler notre cortisol. Est-ce une nouvelle tendance éphémère? Sur les réseaux sociaux, des internautes vantent les supposés mérites des adrenal cocktails, cocktails surrénaliens, aussi appelés cortisol cocktails, cocktails de cortisol. Ce sont des boissons sans alcool auquel on attribue la vertu de réguler les niveaux de cortisol. Le cortisol, l'hormone du stress, est sécrété par les glandes surrénales. Quelques minutes après la poussée d'adrénaline, il envahit l'organisme pour aider à maintenir un niveau d'énergie assez élevé pour fuir ou combattre le stresseur. Rassurez-vous, ces cocktails ne contiennent pas de cortisol, mais plutôt une série d'ingrédients qui varient beaucoup d'une publication à l'autre. Il y a les cocktails qu'on fait soi-même en combinant généralement un jus d'agrumes pour la vitamine C, du lait de coco pour le potassium et du sel. Certains ajoutent de la crème de tartre, du collagène ou encore du magnésium. Des influenceuses font aussi la promotion de cocktails commerciaux constitués de poudre à dissoudre dans l'eau, comme le Happy Juice, vendu à $164 les 30 portions. Selon le site Internet de l'entreprise américaine qui les commercialise, ces poudres contiennent des extraits de fruits et de végétaux, des probiotiques et des prébiotiques. C'est prouvé cliniquement pour réduire votre tension, votre anxiété, votre stress. Promet sur TikTok Gina Big, qui assure que son cocktail aide aussi à gérer ses émotions, à contrôler son taux de sucre, à mieux dormir et même à perdre son ventre de cortisol. Certains soutiennent que leur cocktail augmente le niveau de cortisol, d'autres qu'il le diminue, mais la plupart utilisent des termes vagues comme « soutenir » et « équilibrer » et affirment ceci. Ces cocktails permettraient de revigorer les glandes surrénaliennes fatiguées. N'importe quoi. À notre demande, la chercheuse Sonia Lupien, directrice du Centre d'études sur le stress humain, a visionné une série de ses vidéos TikTok. Son verdict? C'est du n'importe quoi, dit-elle en soupirant. Il n'y a aucun fondement à quoi que ce soit que j'ai vu. L'origine de cette tendance remonte aux années 1990. Des études avaient conclu que des patients souffrant d'épuisement professionnel ou encore de fatigue chronique ne produisaient pas assez de cortisol. Des cliniciens se sont dit qu'il fallait donc rétablir les niveaux hormonaux pour retrouver l'équilibre, explique Sonia Lupien. De là a émergé le concept de fatigue surrénalienne, un terme pseudo-scientifique. Mais il y a deux problèmes avec ça, souligne-t-elle. Premièrement, ton cocktail, il ne va pas augmenter le cortisol, ça c'est sûr. Et deuxièmement, la fatigue surrénalienne n'est pas un diagnostic médical. Ce sont des gens qui se sont levés un matin, qui ont appelé ça de même et qui se sont mis à vendre n'importe quoi. Les systèmes hormonaux sont des systèmes extrêmement complexes, souligne Sonia Lupien. « Ce n'est pas simple comme « tu n'en as pas assez, je t'en donne », résume la chercheuse. Et chaque fois que quelqu'un te dit qu'un produit traite plus qu'une chose, l'anxiété, la dépression, le diabète, « j'ai perdu 30 livres », c'est sûr et certain que ce n'est pas vrai, ajoute Sonia Lupien, qui souligne que ces problèmes ont des bases physiologiques souvent à l'opposé. Le ventre de cortisol existe. En période de stress chronique, le corps emmagasine du gras abdominal parce qu'il est facilement accessible en cas de menace, explique Sonia Lupien, qui trouve hilarant qu'un cocktail de cortisol soit présenté comme la solution à ce problème. La dernière affaire que tu veux, quand tu as une bedaine de cortisol, c'est bien de te faire administrer du cortisol. S'il fallait boire du jus d'orange, du lait de coco ou toutes sortes de suppléments pour stresser ou déstresser, on n'aurait jamais survécu au mammouth, résume la chercheuse, qui souhaite un plus grand encadrement de ses contenus trompeurs. Solution facile. Dans le moteur de recherche PubMed, on trouve des études qui ont mesuré l'association entre le stress et l'anxiété, auto-rapportée, et l'apport en différents minéraux, plantes ou vitamines. Cette littérature n'est pas dépourvue d'intérêt, mais ce sont des études de petite envergure qui peuvent avoir des biais et dont les résultats et les paramètres varient, explique Karine Paiement, diététiste nutritionniste et doctorante en kinésiologie à l'Université de Montréal. Quand on veut émettre des recommandations plus générales, dit-elle, on veut beaucoup d'études qui arrivent à une conclusion similaire. On n'a pas assez de données pour conclure que ce type de cocktail a un effet pour réduire le stress. L'engouement envers ces cocktails témoigne d'une chose. Les gens cherchent des façons de réguler leur stress et c'est plus rapide d'avaler un cocktail que de prendre le temps de méditer, de faire des pauses actives au travail, de cuisiner des repas et de les manger entourés de gens qu'on aime, ou encore de chercher la source de son stress. Résume Karine Paiement. C'est l'ensemble d'habitudes de vie qui compte, rappelle-t-elle. Aux gens qui veulent le déstresser, Sonia Lupien a un conseil. Aller faire un jogging ou une marche rapide autour du pâté de maison, ou mieux, dans un espace vert. Ça va avoir un impact plus important que ton cocktail de niaiserie que la madame va te vendre, conclut-elle. C'était des cocktails pour réguler son cortisol? Un texte de Catherine Hanfield, paru le 19 juin 2024 dans La Presse.
La popularité des bidets ne cesse de grandir en Amérique du Nord. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 21 mai 2024 dans Le Devoir. Les bidets ont fait leur place sur le marché et montent en popularité en Amérique du Nord depuis le début de la pandémie. On invoque leurs avantages environnementaux et économiques ainsi que le confort qu'ils procurent. Une première entreprise au Québec veut maintenant commercialiser sa propre version de cet appareil d'hygiène personnelle. « Je suis vendu. Je ne retournerai pas en arrière. » Sophie Saint-Gelais a été convaincue par une de ses collègues d'installer un bidet chez elle il y a un an et demi. Elle souhaitait diminuer l'utilisation de papier de toilette et de lingettes nettoyantes de sa famille, qui compte de jeunes enfants. En tant qu'ergothérapeute, elle recommande d'ailleurs les bidets aux personnes qui ont de la difficulté à s'essuyer. Pour elle, les avantages sont aujourd'hui indéniables. L'impression de fraîcheur et de propreté est particulièrement réjouissante. Elle a incité sa sœur Catherine à suivre ses pas. « C'est vraiment moins désagréable d'aller aux toilettes, maintenant. C'est rapide, efficace et confortable », commente Catherine Saint-Gelais. Cette dernière répand la bonne nouvelle autour d'elle. Elle remarque d'ailleurs que de plus en plus de personnes de son entourage possèdent aussi un bidet. Alors que cet outil de lavage intime par jet d'eau est populaire depuis longtemps dans plusieurs régions du monde, notamment en Asie, la vague a pris du temps à arriver en Amérique du Nord. En effet, plusieurs compagnies de bidets américaines faisant affaire au Québec, notamment Tushy, Luxe Bidet et Brundel, rapportent une explosion de leurs ventes coïncidant avec la ruée vers le papier de toilette de mars 2020. Selon eux, la demande a ensuite continué de croître tranquillement jusqu'à aujourd'hui. Brundel estime par exemple qu'elle en vend maintenant des dizaines de milliers par année au Canada. C'est exactement le même phénomène qui a été observé dans les quincailleries Patrick Morin, selon le gestionnaire de la catégorie plomberie de l'entreprise, Philippe Lucier. On voit que la popularité continue de grandir, a-t-il indiqué. Les fabricants ont augmenté et diversifié leur offre, tout comme les quincailleries. Aujourd'hui, on peut trouver des bidets dans un éventail de prix allant de 10 $ à plus de 1 000 $. Les moins chers sont des bouteilles portatives qu'on actionne à la main, alors que les plus dispendieux sont des toilettes complètes électriques aux multiples fonctionnalités. Entre les deux, ils peuvent prendre la forme de sièges de toilette ou de bidets douchettes qui ressemblent à un petit pommeau de douche amovible. Le modèle le plus vendu est toutefois un accessoire qu'on installe facilement entre son siège de toilette et la cuvette, dont on peut faire jaillir l'eau grâce à une manette qui est rattachée sur le côté. Plusieurs marques américaines les vendent en ligne pour moins de 100 $, notamment sur Amazon. L'offre est plus limitée en magasin, notamment au Costco, au Walmart et dans les quincailleries au Québec, car peu de fabricants ont adapté leur emballage pour notre marché francophone. On aime favoriser l'achat local, alors si on pouvait avoir des produits d'une compagnie québécoise à juste titre, on serait intéressé, indique Patrick Lucier. Un premier bidet québécois. Une entrepreneure québécoise a justement l'ambition de lancer sous peu son propre bidet. Marie-Ève Lupien, fondatrice de Bateau Bateau, vend depuis 2021 des modèles américains sur son site Internet. Elle fournit avec ceux-ci un manuel d'instruction qu'elle a elle-même fait traduire en français. De cette façon, elle écoule environ 400 bidets par année sans faire beaucoup de promotion. Madame Lupien, qui conçoit également des ensembles de mouchoirs et de papier hygiénique réutilisables et des essuie-tout lavables, vante les mérites des bidets. Il y a un aspect économique substantiel parce que ça te permet d'arrêter d'utiliser du papier de toilette. En moyenne, les Canadiens consomment à peu près 83 rouleaux par année. J'ai calculé que c'est minimalement 78 $ par année pour une personne, rapporte la femme d'affaires dans son lumineux local du quartier Chabanel, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Les avantages environnementaux de ce mode de vie sont également chers à son cœur. Elle souligne que la production de papier de toilette implique la destruction de la forêt boréale, de même qu'une intense utilisation d'énergie et d'eau. Les bidets ont le potentiel de gagner encore bien des cœurs, croit la mère de famille. Pour cela, elle estime qu'il faut les rendre encore plus accessibles et en faire activement la promotion. Elle a donc d'abord mis en marché un bidet portatif bateau-bateau. Elle a ensuite trouvé un fabricant chinois qui lui a permis de créer un prototype de bidet à son goût, avec les fonctions et les options qu'elle désire. Ça va me permettre d'avoir une meilleure marge de profit et aussi de pouvoir les vendre dans des quincailleries et des pharmacies, explique-t-elle. Pour financer sa production, Madame Lupien lancera le 31 mai 2024 une campagne de sociofinancement sur le site La Ruche. En précommandant son bidet, les clients donateurs obtiendront 20% de rabais sur le produit, dont le prix est de $89.99. Une ancienne Montréalaise et ses millions de bidets. D'autres bidets pourraient bientôt être proposés à davantage de Québécois. La populaire Touchy, basée à Brooklyn, prévoit d'offrir ses produits avec un emballage et des informations en français d'ici un an, indique la fondatrice Mickey Agrawal. La femme d'affaires américaine est d'ailleurs née à Montréal et y a grandi. Elle considère que le bidet qu'elle a reçu en cadeau, elle qui devait aller aux toilettes très souvent en raison d'un ennui de santé, a changé sa vie. Entre 2015 et 2020, les affaires ont été lentes à décoller pour Touchy. Il a fallu éduquer beaucoup les gens sur la question, faire des campagnes drôles et amusantes pour montrer que les bidets sont cool, raconte Mme Agrawal dans une entrevue en français. En 2020, ses ventes annuelles ont atteint environ $40 millions, soit environ 400 000 bidets, dit-elle. Elle a triplé le nombre de ses employés. Pour 2025, elle projette d'atteindre un chiffre d'affaires entre 65 et 75 millions de dollars. Environ 20% de ses commandes viennent du Canada. Si vous aviez du caca d'oiseau sur les bras, vous ne l'essuieriez pas seulement avec du papier. N'est-ce pas? Vous voudriez aussi minimalement le rincer, argue Mme Agrawal. Alors pourquoi on ne fait pas ça pour la partie la plus sale de notre corps? C'était « La popularité des bidets ne cesse de grandir en Amérique du Nord », un texte de Roxane Liouzon paru le 21 mai 2024 dans Le Devoir.
Les Jeux d'hiver de l'Arctique s'engagent dans la réconciliation. Un texte de Nelly Guidici, paru le 18 avril 2024 dans l'Aurore boréale, au Yukon. Le 13 mars 2024, 3 jours après la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de l'Arctique dans la vallée Matsu en Alaska, le Comité international des Jeux d'hiver de l'Arctique, Arctic Winter Games International Committee, AWGIC, a fait une annonce importante et significative. Alors que les prochains Jeux auront lieu à Whitehorse, au Yukon, en 2026, le comité a annoncé s'engager à respecter l'appel à l'action numéro 91 du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. L'appel à l'action numéro 91 invite les responsables et les pays hôtes d'événements sportifs internationaux à veiller à ce que les protocoles territoriaux des peuples autochtones soient respectés, ainsi qu'à ce que les collectivités autochtones locales participent à tous les aspects de la planification et de la participation à de tels événements. Cette décision a été prise avant la tenue des Jeux d'hiver de l'Arctique 2024 à Matsu et souligne la volonté de l'AWGIC de promouvoir la réconciliation, la compréhension et le respect au sein de l'Organisation des Jeux d'hiver de l'Arctique dans le futur. Les Jeux d'hiver de l'Arctique ont toujours eu pour but de rassembler les communautés par le biais du sport et des échanges culturels, a déclaré John Flynn, ancien président de l'AWGIC. Nous reconnaissons le riche héritage culturel et les contributions des peuples autochtones aux Jeux et au Nord circumpolaire dans son ensemble. Il est impératif que nous intégrions les principes de réconciliation dans tous les aspects de notre planification, afin de garantir que les Jeux continuent à servir de plateforme pour l'unité et la compréhension, poursuit-il. Dans cette optique, les perspectives, les connaissances et les pratiques autochtones seront intégrées dans la planification et l'exécution des futurs événements des Jeux d'hiver de l'Arctique. La Société hôte des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026 est en train d'élaborer un plan d'ensemble de l'événement. Dans le cadre de ce processus, elle a déjà entamé un dialogue constructif avec divers gouvernements et organisations des Premières Nations, tels que le Conseil des Premières Nations du Yukon, la Première Nation des Kwalindun et le gouvernement du Conseil des Tanquachan. Nous nous engageons à faire en sorte que les perspectives, les voies et le riche patrimoine culturel des Autochtones soient non seulement reconnus, mais aussi activement intégrés à chaque étape de la planification et de l'exécution, depuis la phase actuelle de planification jusqu'à l'apogée des Jeux, explique Elizabeth Priest, coordonnatrice intérimaire du marketing et de la communication au sein de l'AWGIC. La ville de Whitehorse est située sur les territoires traditionnels du Conseil des Tanquatkan et de la Première Nation des Kwalindun. C'était « Les Jeux d'hiver de l'Arctique s'engagent dans la réconciliation », un texte de Nelly Guidici, paru le 18 avril 2024 dans l'Aurore boréale au Yukon.